Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour. Je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite, comme toujours, la plus cordiale des bienvenues à Marcher vers le bien-être. Nous l'avons constaté à plusieurs reprises à cette émission, la randonnée de longue durée n'est pas l'apanage des adeptes de la marche pèlerine. Plusieurs de nos invités nous ont fourni d'éloquents et inspirants témoignages à cet effet. Je pense à Yannick Prou, qui a traversé le Canada à pied pour sensibiliser des jeunes et des moins jeunes à sa philosophie de vie axée sur la simplicité et la connaissance de soi. Pour sa part, Catherine Turgy nous a parlé avec émotion et sérénité de sa conquête de la fameuse Triple Crown, ou trois couronnes des marches d'endurance, totalisant plus de 11 000 kilomètres. Et que dire de Yves de Belleval, notre globe-trotter philosophe, qui a visité plus de 90 pays et vécu pendant l'équivalent de plus de 2 ans sur les chemins de Compostelle et parcourant près de 17 000 kilomètres. Je vous invite d'ailleurs à écouter à nouveau ces 3 entretiens archivés sur le site jemarchepartout.com sous l'onglet Radio-VM grâce au moteur de recherche qui s'y trouve. Aujourd'hui, nous accueillons en studio Zachary Morin-Pelletier, un jeune homme de 21 ans qui a entrepris lui aussi une très longue marche, mais dans un but tout autre que nous allons découvrir au cours de notre entretien. Zachary est accompagné d'un très grand ami, Jérôme Costigan, qui est aussi membre de notre équipe de techniciens à Radio-VM. En deuxième partie d'émission, notre serein pèlerin Michel O'Neill nous parle de sa plus récente trouvaille, une marcheuse vraiment pas comme les autres. Il s'agit de Anne Zibben, qui préfère marcher l'hiver et qui s'est elle-même baptisée la Winter Pilgrim, la pèlerine d'hiver. Alors, bonne écoute et à tout de suite. Alors, bonjour Zachary et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous entretenir de votre grande aventure pédestre.
Et bonjour à vous, Denis. Merci beaucoup de m'accueillir ici dans vos studios.
Et merci également à vous, Jérôme, de vous joindre à nous pour cet entretien qui s'annonce vraiment des plus intéressants.
Ben merci à vous, ça me fait plaisir d'être là.
Alors, Zachary, avant de parler de votre motivation pour cette très longue randonnée, parlez-nous un peu du parcours dans ces grandes lignes.
Donc, dans le fond, moi, initialement, j'avais prévu de me rendre à pied, de faire Montréal-Vancouver à pied. Donc, j'ai commencé à Vaudreuil et j'ai pris l'autoroute transcanadienne pour me rendre jusqu'à Ottawa. Après ça, de Ottawa, ben, dans le fond, de Gatineau jusqu'à Pembroke, proche de Petawawa, j'ai changé pour prendre l'autoroute 148. Et après ça, j'ai repris l'autoroute transcanadienne. Là, quand on passe de North Bay à Sudbury, à South St. Mary, Thunder Bay, jusqu'à Winnipeg. Et dans le fond, mon périple s'est terminé dans la belle ville de Winnipeg.
Ah, et pourquoi ça s'est terminé là et non à Vancouver, ou on y reviendra un peu plus tard?
Je pense que j'avais sous-estimé le grand pouvoir de la marche et que la marche peut donner des complications un peu au niveau de mes muscles. Donc, j'ai commencé à avoir un peu mal un peu partout. Donc, je me suis dit, ça vaut pas la peine de tout terminer. J'ai vécu ce que j'avais besoin de vivre et je me suis mis en forme au courant du chemin. Donc, j'ai pris ça comme une victoire de toute manière.
Formidable, formidable. Et vous, Jérôme, ben, vous êtes de bons amis, Zachary et vous. Et
oui,
vous avez suivi un peu le parcours.
Ah ben, je l'ai suivi à tous les jours. En fait, on s'appelait à tous les jours. Ben, moi, je l'appelais surtout pour savoir s'il était encore en vie. Mais oui, je l'ai suivi à travers son périple. Et depuis 4 ans de ça, je le connais.
Oui.
Oui, ça fait un petit moment.
C'est bon d'avoir une complicité hein, pendant une grande aventure comme celle-là, parti tout seul à traverser le Canada, n'est-ce pas, Zachary?
Oui, c'est sûr. J'ai été très, très content aussi d'avoir un support émotionnel de mes proches, là, notamment Jérôme. Jérôme a joué un grand rôle dans ma santé d'esprit lors du périple. Donc, je suis très reconnaissant pour ça. C'est important d'avoir des bons amis comme ça.
Alors, parlons de la motivation. Pourquoi entreprendre la traversée du Canada?
Mais je pense que j'avais besoin beaucoup de silence. Dans le fond, j'avais besoin d'une certaine... de faire la paix avec certaines choses. Je me suis dit que si j'étais majoritairement seul à faire quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc marcher, ça fait longtemps que j'aime ça faire ça, je me suis dit que si j'étais pour me recueillir avec moi-même le temps d'une marche, même si la marche dure 2 mois, mais je pense que ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu être avantageux pour moi à ce niveau-là. Et je pense que ça a été un succès. Donc, on parlait de ça aussi. Moi, je pense que le silence, là, ça peut être beaucoup plus... un des bruits les plus bruyants. Bruyants, pardonnez-moi. Donc...
Oui, c'est ça, oui. Et pourquoi c'était bruyant, votre vie, auparavant? Comment vous définissez le bruit de tous les jours avant de partir?
Moi, je pense que vivre à Montréal, de base, c'est quelque chose qui peut être très bruyant. J'ai toujours été quelqu'un là, qui était beaucoup... j'ai fait beaucoup d'activités, j'ai eu beaucoup d'emplois, donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie dans les dernières années. Je pense que j'avais besoin de ce silence-là et je suis content parce que ça me l'a apporté...
Mm-hmm. Oui. Ben, on y reviendra justement un peu plus tard, là, dans les bienfaits, les beaux moments de cette traversée.
Exactement.
Mais pourquoi traverser le Canada plutôt que le Québec ou plutôt qu'un Compostelle, un pèlerinage? Pourquoi la traversée du Canada?
Mais je pense que j'avais envie de faire quelque chose de grandiose. C'est sûr que le Québec, c'est très grand, puis toutes les provinces sont très grandes. Mais j'étais fasciné là, vraiment par... à quel point l'entièreté du Canada, puis faire, dans le fond, ce serait le chemin qui me ferait voir chacune des provinces, sauf pour les provinces plus de l'Est. Là.
Mm-hmm.
Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ça.
Oui, bon. Oui. Et puis, il faut dire que c'est un voyage intérieur, même si on voit des paysages extraordinaires, et on en reviendra tout à l'heure, c'est un long voyage intérieur et la traversée du Canada s'y prête bien.
Oui, réellement. C'est sûr que moi, j'en retiens que j'en ai appris beaucoup plus sur moi que sur le Canada. J'en ai appris tout de même beaucoup sur le Canada. On voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de paysages, etc.
Oui.
Mais oui, c'est sûr que d'être constamment avec soi-même, mais ça fait en sorte que la seule personne à qui t'as parlé, c'est toi.
Alors, vous aviez envie de marcher. Vous êtes un grand marcheur. Et encore une fois, vers la fin de l'entretien, nous y reviendrons. Mais il faut dire que vous étiez bien préparé quand même.
Oui.
C'était pas un coup de tête, là.
Non, pas du tout. Ça m'a pris environ un an de préparation physique, mentale et matérielle.
Mm-hmm.
Donc, oui, je faisais déjà beaucoup de marches, là, en ville. J'ai marché à peu près partout à Montréal. J'ai vu relativement... Avec un sac à dos rempli de bouteilles d'eau. À plusieurs reprises. Des fois sans, des fois avec. Donc oui, j'ai marché à peu près partout à Montréal. J'ai vu tous les quartiers. Ça a été une grosse partie de ma préparation. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'exercices aussi musculaires qui viennent avec ça.
Tel que?
J'ai dû faire mes haltères, mes push-ups, mes squats.
Oui.
Près d'un an là, avant ça, de manière assez intensive.
Oui, et c'est probablement une recommandation que vous auriez à faire à d'autres personnes qui voudraient vous imiter ou quand même se lancer dans une grande aventure.
C'est sûr. Parce que j'ai appris à mon dépens que j'étais peut-être pas assez même préparé physiquement. Là, donc,
Oui. Et la préparation mentale, elle est importante.
Exact. Je pense qu'elle est très importante. Moi, il y a eu moins de préparation mentale à mon niveau parce que je pense que j'étais très pressé de partir. J'étais très excité pour cette belle aventure-là. Donc, c'est peut-être quelque chose que si j'étais pour le refaire, j'accentuerais plus sur la préparation mentale. En effet, je pense que c'est très important et que j'ai sous-estimé ça.
Oui. Et il y a aussi la préparation, comme vous le disiez, avec votre famille et vos amis que vous auriez quitté pendant un très long moment, dont Jérôme aussi, là.
Mm-hmm.
Ça se prépare à l'avance. Il faut du dialogue, en parler, le sensibiliser votre entourage à votre grande aventure.
Oui, c'est sûr. Là, pas mal tout le monde que je connais était conscient de ce que je m'apprêtais à faire. Mais c'est sûr que, bon, grâce à Internet, j'ai tout de même été capable de communiquer avec ma famille à tous les jours.
Vous avez gardé le contact.
Oui, c'est sûr.
Et Jérôme, est-ce que vous avez encourager Zachary, décourager,
bien sûr.
L'aider? Comment ça se fait entre amis comme ça, la relation? Là?
La première fois qu'il m'a dit ça, moi, je lui ai dit, ben écoute, ce serait une excellente aventure à vivre en ligne aussi avec les gens. C'est-à-dire de le filmer, de tout ça. Mais ça, au final, ça lui appartient et puis il n'a pas voulu le faire. Là, mais dès le début, j'ai vu une aventure grandiose se préparer devant moi. Puis je l'ai toujours encouragé à 100% à faire tout ce qui lui amènerait du bien.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Vous l'avez encouragé ou suggéré là, de filmer, prendre des photos, des choses comme ça. Mais Zachary, ça fait partie de votre recherche du silence, justement, de laisser ça derrière. Là.
Ah, exactement. Je pense que j'avais vraiment, vraiment besoin d'être avec moi-même. Mais comme j'ai dit avant, là, je suis tout de même très, très reconnaissant pour ce que Jérôme a fait pour moi. Jérôme a été, je dirais, la personne qui a été le plus présente dans ma vie durant ces deux mois-là. Donc, c'est sûr que c'est un bon support émotionnel, mais je préférais tout de même là, être avec moi-même. Je pense que pour d'autres personnes, ça aurait pu être très intéressant. Là. Quelqu'un qui est peut-être plus préparé que moi, qui est plus une connaissance là, un peu de comment ça fonctionne, on va dire les réseaux sociaux, etc., pour essayer de documenter un peu son aventure. Mais c'était peut-être moins mon objectif à moi, en effet.
Mm-hmm. Est-ce que c'est une expérience que vous aimeriez répéter, justement, la prochaine fois pour documenter davantage?
Oui, c'est sûr. J'ai encore beaucoup de paysages à découvrir. Il y a plein d'endroits où est-ce que j'aimerais aller. Notamment probablement en Asie du Sud, en Europe, etc. J'aimerais beaucoup ça marcher là-bas. C'est aussi le Québec également. Je pense que le Québec, c'est très beau et selon moi, j'ai pas assez voyagé dans le Québec. J'ai pas assez vu nos paysages locaux.
Mm-hmm. Donc, alors, vous allez revenir nous en parler.
J'espère.
Est-ce qu'il y a d'autres préparatifs?
Oui, c'est sûr, il y a beaucoup, beaucoup d'équipements à avoir. Donc, j'ai dû avoir un énorme sac à dos, que je pourrais mettre beaucoup de choses. Et j'ai pris le minimum avec moi. Donc, et même en prenant le minimum, c'est beaucoup, beaucoup de matériel. Donc, je dirais sac à dos. J'avais aussi une poche pour mettre mon eau avec une paille, etc. Mm-hmm. Ça prenait à peu près 2,5 litres. Il fallait pas toujours que je le remplisse au complet parce
c'est
que
un peu lourd, hein?
L'eau, c'est très lourd, ouais, en effet. J'avais un petit matelas gonflable que ça rentrait, c'est à peu près la taille d'un sac de carottes à peu près. Mm-hmm. Je faisais juste souffler 2-3 fois dedans, puis le matelas gonflable prenait son expansion.
Ah oui?
Ouais. Mm-hmm. Ça, c'était mm-hmm. très pratique. Mm-hmm. Évidemment, j'avais une tente aussi, une tente facile à monter. Il y a aussi assez de nourriture, donc je me gardais toujours assez de nourriture pour 2 jours à peu près. Donc je me planifiais 3 repas. Repas pour 2 jours, donc 6 repas au total que j'avais dans mon sac à dos à peu près à chaque jour. Mm-hmm. J'avais aussi mes vêtements, donc j'avais 3 paires de pantalons, 3 chandails, 3 paires de culottes, 3 paires de bas. et aussi, là, je me suis dit, il faut aussi que j'aie un minimum de divertissement, là, de choses pour exactement passer le temps puis réfléchir avec moi-même. Donc, j'avais mon petit carnet de notes. Je me suis remis au dessin, je me suis remis à l'écriture un peu.
Ça m'a
accompagné aussi durant mon voyage. Mm-hmm. Mais j'avais le strict minimum. Là. À part pour ça, j'avais très, très peu de choses sur moi.
Oui. Mais je trouve très intéressant que même s'il n'y avait pas de vidéo, de photos ou quoi que ce soit, vous étiez dans un mode réflexion et vous avez quand même capté vos pensées,
exactement.
Vos émotions.
Oui, c'est des souvenirs que je suis loin d'oublier. Mm-hmm. Je suis sûr que ça va rester avec moi pendant les années à suivre.
Oui. Alors, parlons justement des moments forts pendant votre traversée. J'imagine qu'il y en a plusieurs.
Oui, il y en a eu plusieurs. Un notable, là, c'est la première nuit que j'ai passée. J'ai passé ma première nuit à Hawkesbury. Donc ça, c'est
à la frontière de l'Ontario.
Exactement, c'est très près. Je pense que c'est la première, on va dire, grande ville, oui. Entre guillemets, là, à la frontière de l'Ontario. Et le sentiment, ce que je m'étais rendu compte, c'est que le sentiment de ne pas savoir nécessairement où est-ce que tu vas dormir. J'avais rien de prévu pour cette soirée-là. De ne pas savoir nécessairement où est-ce que tu vas dormir, même si tu sais qu'au final, tu vas être correct, tu es un gars débrouillard. C'est un sentiment quand même qui peut faire peur d'une certaine manière. Et moi, cette journée-là, donc, j'ai eu... Il y avait de la pluie qui s'installait. Oui. Donc, j'avais comme un petit une heure et demie avant que le déluge arrive pour mettre ma tente, me préparer, etc.
Un petit peu d'anxiété, peut-être.
Exactement, oui. Je pense que c'est le bon sentiment à décrire. Donc, oui, un petit peu d'anxiété au début, mais je me suis adapté quand même vite. Là. Je pense qu'il faut surmonter cette peur-là au début. Puis après ça, ça se passe quand même très bien.
Alors, vous avez fait quoi?
J'ai rien fait. J'ai accepté moi. La défaite. J'ai accepté la peur.
Mais comment, où avez-vous, je sais pas moi, où vous êtes-vous arrêté pour dormir?
Ben, j'ai sorti ma carte. Moi, je m'étais rendu compte que les endroits où est-ce qu'il y a le plus de discrétion pour mettre sa tente, souvent, ça va être sur le bord de l'eau. On trouve un endroit qu'il y a beaucoup d'arbres autour, qu'on est relativement loin là, des routes puis de la civilisation, là, entre guillemets. Donc, ce que j'ai fait, c'est simplement, j'ai ouvert mon application Google Maps, désolé pour l'anglicisme, et j'ai essayé de trouver une sorte de plage ou une sorte de ravin, quelque chose qui pourrait être proche de l'eau. Bon, c'est ça que j'ai fait. J'étais quand même chanceux, mais ça m'a aidé là, pour les soirées à venir. Là, j'ai eu plus de facilité avec le temps à facilement me trouver un endroit où dormir. Mmh.
Vous êtes débrouillard quand même.
Je sais.
Et c'était le premier soir, c'est ça?
Exactement, ça, c'est le premier soir.
Quelle belle façon de commencer votre périple.
C'est sûr, c'est sûr.
Et il y a d'autres... En fait, je parle de moments forts. Vous me décriviez la rencontre, ou presque, avec un ours.
Exactement. Donc, j'étais proche de la ville. C'est encore au début de mon périple. J'étais à Petawawa. Et à Petawawa, il y a une grande base militaire avec un camping sur le lieu. Donc, les touristes peuvent venir s'installer là. Bon, j'avais besoin de prendre une douche. J'avais besoin d'être à un endroit stable avec des bouteilles d'eau et un peu de civilisation autour de moi. Donc, je suis resté là pour la nuit. Et le lendemain, quand je suis reparti sur la route, je suis arrivé à une intersection entre deux grandes routes. Donc, on retourne, je pense à... Je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense encore que c'est l'autoroute 148. Ou c'est vraiment à la fin, donc je devais être, sinon, sur la transcanadienne. J'étais à une intersection. Et de l'autre côté de la grande route, je regarde dans les bois et là, je vois des yeux avec un gros nez. Là, je me dis, ah, c'est rien de bon. Il n'y a personne autour de moi. Donc, si j'avais été pour me faire attaquer par l'ours en question, personne ne l'aurait su avant plusieurs heures, probablement.
Plusieurs jours ou semaines.
Exactement. Donc, et là, je vois la silhouette de l'ours sortir du bois de l'autre côté.
Ooh.
Donc, tout de suite, je m'étais préparé. Ça, c'est un autre matériel que je pense qu'il est essentiel à avoir. Un répulsif ou un répulseur à ours. Donc, je le sors, je le mets sur le côté de ma hanche, puis je marche à reculons. Et l'ours, il se dirige vers moi. Et dès qu'il passe juste à côté de moi, il rentre dans l'autre côté de la forêt. Mm-hmm. Donc, j'ai eu la frousse. Et dès que j'ai vu l'ours rentrer dans la forêt, bon, ça, c'est un des quelques moments que j'ai sorti mon pouce. J'ai fait quelqu'un venait m'aider.
Au secours.
Exactement.
Vous en aviez parlé à Jérôme?
Oui, c'est ça, je l'ai appelé juste après. Ah, oui, plus 30 secondes après.
La plupart de ces événements, j'étais au courant dans les 30 minutes à suivre.
Pour l'encourager, là.
Oui, bien sûr.
Vas-y, continue.
Oui. Les paroles sauvent.
Pour croiser les doigts pour lui, pour qu'un chant passe.
D'autres beaux moments, Zachary?
Oui, il y avait aussi ce que je considère comme étant probablement le plus beau moment. J'ai pas réussi malheureusement à trouver le nom de la ville où est-ce que ça s'est passé, mais c'était vraiment sur la rive du lac Supérieur. Donc, on devait être entre Sault Ste. Marie et Thunder Bay. Et c'était une ville côtière qui, dans le fond, descendait. Dans le fond, le haut de la ville était... Mais dans le fond, tout ce qui était, on va dire, le centre-ville, c'était vers le haut. Et quand on descendait, il y avait des parcs provinciaux, un parc provincial, etc., avec des chutes. Donc, je suis allé visiter les chutes absolument magnifiques. Probablement une des choses les plus belles que j'ai vues niveau paysage, niveau nature durant mon périple. Et si on descend encore, là, on était vraiment... Il y avait une grande, grande plage avec la vue infinie du lac Supérieur. Et il y avait une petite île juste passé la plage. Puis, il fallait que tu mettes toutes tes jambes dans l'eau pour pouvoir y accéder. Et je suis allé, j'ai mis ma tente là. Et j'ai passé le reste de ma soirée avec les canards, moi, ma tante et moi-même.
Oh là là!
Etc. Donc, je pense que ça, c'était potentiellement avec une vue incroyable, un coucher de soleil qui reflète sur les chutes. Écoute, je suis sans mots.
Là, c'est la photo que vous m'avez montrée, je crois.
Exactement.
Et ça, que nous mettrons chutes. Sur le site Je marche partout.
Exactement.
Oui, parfait. Alors, encore d'autres beaux moments?
C'est sûr, honnêtement, chaque jour est exceptionnel. J'ai aucun souvenir d'une mauvaise journée, entre guillemets. Mm-hmm. Peut-être ma dernière, là, un peu de nostalgie qui vient avec ça.
Voilà, ouais. Oui.
Mais pour de vrai, qu'il y a des beaux moments.
Oui.
J'ai fait beaucoup de belles rencontres, j'ai vu énormément de paysages. C'est très, très beau, le Canada. Je pense qu'on sous-estime à quel point, région, là, hors des villes, ouais. Là, c'est absolument...
Oui.
On est chanceux.
Vous partiez en solitaire, évidemment, mais vous avez quand même fait de belles rencontres, quelques-unes.
Oui, c'est sûr. Surtout, là, on en parlait un petit peu plus tôt, en faisant de l'autostop, là, en faisant du pouce.
Mm-hmm.
Bon, c'est sûr que les gens qui vont être prêts à t'embarquer, souvent, ça va être les gens, des gens intéressants, des gens qui ont beaucoup de choses à dire.
Oui.
Donc, oui, non, c'est sûr, j'ai fait beaucoup de bonnes rencontres. J'ai rencontré des gens aussi qui m'ont hébergé dans leur maison, dans des chalets qu'il y avait. Je me suis fait donner beaucoup de cadeaux. Je me
suis fait donner curieux, là.
De la nourriture,
oui.
Ouais, plein de
choses. Pratique, quand
exactement.
Même,
oui. L'anti-moustique aussi.
Ah,
très important, ça.
très important. Alors, somme toute, ce fut un merveilleux voyage, presque à tout point de vue.
Mm-hmm.
Et on y reviendra un petit peu plus tard. Nous allons prendre une courte pause musicale et parler ensuite des bienfaits, en fait, de cette longue marche. Nous sommes en compagnie de Zachary Morin-Pelletier et de son grand ami Jérôme Costigan. Alors Zachary, parlons maintenant des bienfaits de votre longue marche au Canada. C'est quoi? Physique d'abord, disons.
Physique, bon, moi ça m'a, excepté pour les blessures un peu que j'ai eues vers la fin du voyage,
ah oui.
Ça m'a mis extrêmement en forme. Je me forçais aussi là, de faire des exercices du haut du corps là, pendant mon pèlerinage. Là.
Tel que?
Ça va être vu que j'avais pas mon équipement avec moi, ça va être majoritairement là, des push-ups ou sur la table, je faisais des étirements de bras sur les tables de pique-nique, etc.
Oui.
Donc, quand je suis revenu, j'étais quand même, je dirais, peut-être le plus en forme que j'ai jamais été dans toute ma vie. C'est extrêmement bon pour le cardio aussi.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Donc, non, il y a énormément de bienfaits au niveau physique.
Alors, vous avez effectué votre marche à l'été 2025. Vous êtes toujours en forme?
Toujours en forme. Bon. J'essaie de ne pas perdre. C'est sûr que durant l'hiver, on marche moins un peu. C'est plus difficile, mais... Tout de même, je fais mes exercices à la maison.
Oui, oui. Alors, physiquement, top shape, comme on dit.
Top shape.
Parfait. Et au niveau du mental, il s'est passé quoi?
Moi, ça m'a énormément aidé là, d'avoir une grande clarté d'esprit. Je me suis débarrassé d'une certaine manière là, du brouillard constant. Là. Certaines personnes ont ça, toujours des pensées qui viennent toujours te...
De tourmenter.
Tourmenter, c'est peut-être un gros mot un peu, mais qui passe souvent dans ta tête. Donc, j'ai développé une certaine clarté d'esprit. C'est plus facile pour moi de faire face à mes problèmes en face.
Mais combien de temps ça a pris? Après une semaine, deux semaines? C'est très progressif, j'imagine.
Oui, c'est sûr, c'est très, très, très progressif. Je vous dirais que quand on s'est rendu à un mois... J'ai à peu près touché le sommet que j'ai gardé là, jusqu'à aujourd'hui, je dirais.
Mm-hmm.
Mais oui, j'ai réussi à atteindre cette clarté d'esprit-là à 100%, à son plein potentiel, je dirais, vers un mois à peu près.
Mm-hmm. Oui. Et si on compare Zachary d'avant la marche et après, ben pendant, mais après la marche surtout, qu'est-ce qu'on voit comme différence, comme amélioration?
Je pense que j'ai développé un certain calme. Ça m'a fait prendre un gros pas de recul. Donc, je dirais que le Zachary présent est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Et j'ai beaucoup plus de facilité, je dirais, à communiquer avec les autres et maintenant aussi avec moi-même. Mm-hmm. Donc, oui, je dirais une certaine sérénité, une certaine santé d'esprit.
Mm-hmm. Ça a été difficile?
Ça, je dirais pas que ça a été difficile. C'est venu quand même avec l'expérience.
Naturellement.
Oui, exactement. Donc, je dirais pas que c'est difficile, mais je dirais que ça prend du temps.
Mm-hmm.
Ouais.
Oui. Et vous parliez au début de votre quête du silence. Vous l'avez trouvé?
J'aurais tendance à dire que oui.
Oui. Le silence externe, mais c'est surtout, évidemment, le silence intérieur.
Mm-hmm. Mm-hmm. Exact. Je pense que tout le monde peut... c'est quelque chose que tout le monde peut accomplir, selon moi. Là.
Oui. Il y a une phrase dont vous m'avez parlé en pré-entrevue. « Tu deviens ton meilleur ami ».
Exactement, oui.
Ça, je trouve joli, là. Vous pourriez peut-être expliquer davantage?
Élaborer?
C'est que tu te mets dans des certaines situations que tu peux pratiquement seulement dépendre de toi-même. Donc, je pense qu'apprendre à faire ça, c'est très important. Il y a, pas nécessairement dans ce genre de situation, mais dans la vie en général, tout le monde va être mis dans des situations où est-ce que tu peux pas nécessairement courir après maman, courir après Jérôme. Tu comprends? Il faut que tu sois vraiment... désolé l'anglicisme encore, là, que tu relies sur toi-même.
Oui, oui. Et vraiment, tu prends toute ta conviction, ta sécurité, tu deviens plus indépendant, plus autonome.
Exactement. Ouais. Ça va t'aider, même si tu es en ville, même si de retour à Montréal, ça peut être quelque chose qui est très avantageux. Je recommande aux gens d'essayer ça.
Et à 21 ans, c'est une belle façon de commencer cette vie d'adulte qui va vous mener probablement très loin, là, si on vous écoute bien, on vous comprend bien.
Oui, c'est sûr. C'est important de marcher, même quand on est... Les jeunes doivent... Selon moi, les jeunes doivent apprendre un peu l'expérience de la marche.
Mm-hmm.
Apprendre à marcher, apprendre à...
Être seul avec soi-même.
Exactement. Je pense que c'est sûr, oui, à 21 ans, ça peut être avantageux pour la vie adulte qui est devant nous.
Mais je pense que c'est honnêtement, il n'y a pas d'âge pour ça.
Il n'y a pas d'âge, mais je pense que les jeunes ont moins tendance à marcher. Quand tu es jeune, tu veux une voiture, tu veux un scooter.
Ouais.
Tu comprends?
Ouais.
Ça va être quelque chose qui va peut-être plus venir avec l'âge, mais je pense que c'est important que...
Mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour l'importance de ces bienfaits.
Exactement,
bienfaits.
Ouais, c'est sûr.
Mm-hmm. Même les personnes plus âgées comme moi.
C'est pas ça qu'on essaie de dire.
Non, mais je marche depuis longtemps, je vous comprends très, très bien. Alors, Jérôme, vous êtes de grands amis, Zacharie et vous. Comment vous avez observé, comment vous avez vécu ce changement chez Zacharie? L'avant-aventure, l'avant-périple et après, le Zacharie présent.
Mais c'est sûr que j'ai vu une très grosse différence, en fait, avec le avant et l'après, puisque avant, je le voyais vraiment à tous les jours, maintenant aussi d'ailleurs, mais je le voyais vraiment à tous les jours, et donc j'ai voulu garder ce contact avec lui pendant son périple. Et puis, à travers chaque jour qui passait, je remarquais Zacharie devenir un peu plus mature, un peu plus serein, calme et... plus lui-même, peut-être, comparé à avant. Je pense que plus lui-même, plus confiant en lui.
Oui. Et Zacharie, c'est intéressant la relation que vous aviez pendant la longue marche. Vous vous parliez tous les jours, ou presque,
Oui, en fait, moi, je reviens du travail, je l'appelais, puis là, on parlait pendant 30 minutes, une heure de comment sa journée s'était passée, puis qu'est-ce qui s'en venait pour lui, où est-ce qu'il était rendu, toutes ces informations très importantes pour moi.
Alors, Zacharie, c'était important pour vous, ce contact?
Très important,
Dans votre progression?
J'étais très content de savoir qu'il y avait quelqu'un qui était investi un peu là-dedans. Je n'étais pas surpris non plus. Là. Ça fait longtemps que je sais que Jérôme, c'est un bon gars. Mais non, ça m'a beaucoup aidé au niveau moral. T'sais. Souvent, il y a des choses que... Vu qu'on est, on est tout le temps ensemble quand on est à Montréal, c'est pas difficile quand il nous arrive quelque chose de drôle de juste comme se le communiquer puis se le faire savoir. Mais quand je suis loin puis que là, il y a quelque chose qui arrive, puis c'est drôle, mais c'est drôle comme maintenant, de savoir qu'il y a quelqu'un que je peux appeler On a une conférence vidéo sur le bord de l'autoroute. Puis je lui montre qu'est-ce qui me fait rire. Je dirais que ça m'a aidé beaucoup. Hein. Ça m'a aidé de savoir qu'il y avait quelqu'un qui était prêt à... Que ça l'intéressait pour de vrai, en fait.
Mm-hmm. Parce que vous aviez des conversations assez profondes, j'imagine, là.
Ben oui, c'est sûr. Tu sais, quand t'appelles Zachary puis qu'il t'a dit « Ah, ben là, dans une heure, il se met à pleuvoir et puis je n'ai pas encore mis ma tente, c'est le premier jour. » J'étais un peu en mode « Ah, ben OK, écoute, tu sais, oui, walkthrough puis...
Oui, c'est ça, oui. »
On a eu des discussions profondes, mais beaucoup aussi de niaiseries puis de fourrées.
Et ça fait du bien.
Exactement, c'est sûr. On peut pas toujours être sérieux.
Il faut bien. Zachary, encore une fois, j'apprécie beaucoup la relation que vous avez avec Jérôme. S'il n'avait pas été là, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que votre progression aurait été aussi profonde, facile, fluide?
Honnêtement, j'aurais tendance à dire qu'il y a juste Dieu qui sait. Mais peut-être que j'aurais toffé moins longtemps. Ça se peut. Moi, j'avais envie aussi de montrer à Jérôme que moi, je suis capable de marcher, puis je suis un gros tough, puis tu comprends? Donc, honnêtement, je sais pas qu'est-ce que ça l'aurait pu donner, mais ça se peut très bien que j'aurais arrêté avant.
C'est la force de la complicité.
Exactement.
Hein, c'est ça? Oui, oui.
La force de l'amitié.
De l'amitié. C'est très précieux. Très précieux. Jérôme, ça vous donne le goût de partir?
Pardon? Non, mais pas du tout.
Alors, vous nous disiez en début de conversation que vous étiez quand même un bon marcheur au quotidien. Là. J'aimerais vous entendre parler parce qu'évidemment, l'émission Marcher vers le bien-être est privilégiée d'accueillir des gens comme vous et comme des grands marcheurs et marcheuses qui ont fait un petit peu le tour de la planète. Les grandes randonnées, bien sûr, mais les pèlerinages à Compostelle. Alors, notre mission, c'est de rejoindre, bien sûr, tous ces gens-là, mais aussi de faire la promotion de la marche au quotidien. Vous marchez beaucoup, au jour le jour. Ça vous apporte quoi? Et d'abord, depuis quand vous marchez?
Honnêtement, ça fait tellement... Je pense que la marche, ça a toujours été mon mode de transport principal. C'est sûr, bon, moi j'ai déménagé à Montréal il y a à peu près 3 ans et demi de ça. C'est sûr que je marche beaucoup plus depuis que j'habite à Montréal. Y a beaucoup plus de choses à voir, il y a beaucoup plus de stops, etc. Puis tu sais, aussi c'était une ville nouvelle pour moi. Mais ça fait très 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 longtemps que je marche. Là, moi et Jérôme, on vient de Boucherville. T'sais, à plusieurs moments, là, j'ai marché Boucherville-Varennes. Là, pour ceux qui savent, c'est quand même une bonne marche. Boucherville,
ça fait combien de kilomètres?
Un petit 20-25, je pense.
Ah oui, quand même.
Truc comme ça. Mm-hmm. Ça dépend où est-ce que tu vas. Mais j'ai fait beaucoup de... On va dire dans le passé, là, Boucherville-Longueuil, Boucherville-Varennes, etc. Mais à Montréal, je trouve que c'était peut-être un peu plus divertissant.
Mais la marche en ville, c'est toujours très intéressant.
Oui, c'est ça, exactement.
Il y a plus de choses à voir, à regarder.
Mm-hmm. J'aimais ça me rendre au bout de l'île. Donc, je suis allé à Pointe-aux-Trembles. Je suis allé plus dans le nord aussi, dans le nord-ouest, dans le nord-est.
Mm-hmm.
Donc oui, j'ai marché à peu près tous les quartiers à Montréal.
Et le Mont-Royal.
Plusieurs fois, ça.
Plusieurs fois, ça c'est... C'est un classique.
Oui, oui, oui. Un beau classique.
Un beau classique.
C'est une nature retrouvée qu'il faut protéger.
D'ailleurs. Exactement.
Oui, oui. Évidemment.
Il n'y a pas partout à Montréal. Il n'y a pas ça partout sur l'île. Non.
Ou sur la planète. Un parc comme le Mont-Royal, au beau milieu d'une
ville. Oui, c'est vrai.
Une grande zone urbaine comme nous.
Nous sommes privilégiés, là.
Nous sommes privilégiés. Ça vous apporte quoi? Ou encore une fois, au niveau physique, ça vous maintient en forme un peu, évidemment. La forme retrouvée ou améliorée, là. Mais physiquement, ça vous apporte juste le bien-être?
Oui, je dirais le bien-être en général. Pas mal tous les avantages là, que j'ai décrits pour le voyage, mais j'essaie de les garder en place. Là. J'essaie de ne pas perdre ces bonnes habitudes-là.
Mm-hmm.
C'est super bon pour le cœur, c'est bon pour la respiration. Moi, malheureusement, aussi, je suis un fumeur de cigarettes, donc marcher Marcher beaucoup, ça m'aide à garder mon cardio. Peut-être mourir un peu moins jeune aussi.
Oh là là, mais on va arrêter de fumer quand même.
On va, 100%.
Il faudrait. Oui, oh là 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 là. Alors, au niveau mental, et encore une fois, on en a parlé pour votre grande marche, mais est-ce qu'en ville, vous retrouvez un peu... vous gérez le bruit mieux, tiens?
Oui, oui, honnêtement, oui. C'est sûr que, tu sais, il y a des moments que j'ai pas envie... de marcher à Montréal. J'ai pas envie d'être à Montréal point. Donc là, c'est sûr que ça m'est arrivé là, de prendre l'autobus puis de me rendre dans un endroit un petit peu plus calme. Mais je dirais oui, non, si ça me tente pour de vrai de marcher. Puis tu sais, je suis un gars de ville aussi, donc c'est pas quelque chose qui va me déranger à chaque jour nécessairement. Mm-hmm. Il y a des jours que je vis très très bien avec le bruit ambiant de l'île.
Mm-hmm. Oui. Est-ce qu'on pourrait parler aussi de bienfaits spirituels de la marche en ville? Parce que la marche, elle est aussi méditative, hein? Oui, même en ville.
Exact. Oui.
Alors, ça nous amène à réfléchir davantage, oui, sur le sens de la vie, où on s'en va, mm-hmm, qu'est-ce qu'on fait ici. Alors, c'est au niveau spirituel dans ce sens qui serait intéressant d'avoir...
Ouais, c'est vrai, ce serait spirituel, mais peut-être pas nécessairement avec... un plus haut pouvoir, là, mais peut-être plus simplement avec toi-même. Donc, il y a toute la partie de la spiritualité qui va se concerner soi.
Mm-hmm.
J'aurais tendance à dire que ce serait peut-être plus cette partie-là que ça va toucher.
Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, où que ce que vous disiez, tu es ton meilleur ami, en fait.
Exactement.
C'est dans cette dimension-là et dans ce sens-là que la marche nous apporte beaucoup de bien-être.
Mm-hmm. Je pense que c'est important là, d'apprendre à faire de soi-même là, une personne ressource.
Mm-hmm.
Je pense que la marche aide beaucoup à ce niveau-là.
Oui. Ce qui m'intrigue aussi, c'est la réaction de votre entourage, votre famille, vos amis, autres que Jérôme, au fait que vous ayez accompli cette superbe marche-là à travers, du Québec à Winnipeg. Qu'en pensent vos amis, votre famille?
J'ai eu énormément de support. À peu près tout le monde était d'accord avec ça. Tout le monde m'a supporté, bon, notamment Jérôme. J'ai eu du support aussi là, financier et matériel de ma famille et de mes amis. Je vais donner une petite pensée à mes deux bonnes amies, Maëlie et Bianca, qui m'ont fait énormément de cadeaux au niveau matériel, donc des band-aids, etc., des rasoirs.
Avant de partir, bien sûr.
Exactement. Oui. Donc, j'ai eu énormément de support de tout le monde. Tout le monde était très... Tout le monde était bien avec ça, pour de vrai.
Mm-hmm. Je pense que tout le monde était content de voir que tu étais content de faire de quoi pour une fois.
Oui, c'est ça.
Oui, oui. Et puis, est-ce qu'ils ont noté une différence? Est-ce qu'ils ont partagé leur sentiment de vous voir peut-être, justement, comme vous disiez, là, plus en confiance, plus en sécurité, que vous étiez votre propre ami?
Oui, oui. Non, honnêtement, j'ai eu des témoignages aussi de ma mère. Là. Pas mal tout le monde trouvait que... Il y avait une certaine différence au niveau de mon comportement après ça.
Mm-hmm.
Donc oui, normalement, c'est quelque chose qui a été positif sur toute la ligne, j'aurais tendance à dire.
Oui. Et Jérôme, comment vous voyez encore une fois votre ami maintenant que nous sommes dans un poste de radio, nous faisons une émission sur la marche, il y a toutes sortes de souvenirs qui sont remontés à la surface. Comment vous voyez
oui,
ça
bien
maintenant?
Oui, bien sûr, bien sûr. Comment je vois ça? Ben, moi, je vois un grand ami qui a été qui a passé à travers beaucoup d'épreuves et qui est debout aujourd'hui d'une manière très très élégante.
Vous êtes fier de lui.
Je suis très fier de lui.
Merci
je suis
beaucoup.
Très très fier de Zachary.
Merci beaucoup.
Mais pas assez pour l'imiter. Non, on vous souhaite un jour parce que la marche.
J'aimerais un jour faire une grande marche comme ça, mais c'est beaucoup d'investissement au niveau temps et.
Oui, absolument.
Et effort physique.
Et de
évidemment.
Disponibilité.
Évidemment. Et voilà, il faut quand même.
C'est très, très important.
Un, deux mois, c'est quand même long.
c'est très long, effectivement. Alors, Zachary, c'est un nouveau style de vie, peut-être, suite à votre grande aventure?
Peut-être pas suite. J'ai toujours été un grand marcheur, comme je l'ai expliqué. C'est un style de vie que j'ai peut-être plus mis à l'extrême à ce moment-là. Mais. Là, j'essaie de garder ça, puis je sais que je vais garder ça aussi dans le futur. C'est mm-hmm. quelque chose que j'essaie de beaucoup m'appuyer sur.
Et c'est quelque chose que vous pourriez recommander
Je le recommande à tout le monde.
En quête du silence, comme on dit.
Exactement. Tout le monde qui a des jambes.
Oui. Alors, Zacharie et Jérôme, notre belle conversation tire à sa fin. Zacharie, je vous laisse le mot de la fin, une dernière pensée.
J'aimerais dire à tous les auditeurs que c'est important de faire ce qui nous tente vraiment de faire dans la vie. Donc, faut écouter, on en a parlé beaucoup, faut écouter. Moi, je pense que la personne numéro un qu'on doit écouter dans la vie, ça doit être soi-même. Donc, c'est ça le message que j'aurais à dire à tout le monde. Continuez de marcher et continuez de faire qu'est-ce qui vous rend heureux. Exactement.
Est-ce que vous avez d'autres grands projets?
Pour l'instant, non. Ben, j'en ai toujours 1000. J'ai toujours 100 000 projets. J'ai toujours 100 000 choses que j'ai envie de faire. Pour l'instant, rien de concret, mais c'est sûr. C'est sûr. Ça s'en vient.
Il n'y a pas d'indice?
Ben, potentiellement, j'aimerais ça marcher, faire peut-être le tour du Québec à la marche.
Donc, ah oui.
Passer, mettons, par exemple, on fait Montréal, Sherbrooke, après ça, on remonte en haut jusqu'en Gaspésie. Saguenay, après ça on retourne Rouyn-Noranda, mettons, puis on revient à Montréal. Ça, ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Mais rien de concret encore.
Bon, alors, on vous laisse toute la liberté.
Merci beaucoup.
De réfléchir à votre prochaine quête du silence.
Merci à vous, Denis.
Alors, Zacharie et Jérôme, merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Un plaisir de vous revoir.
Ça me fait plus que plaisir. Merci.
Ma vie est un long chemin sans fin, et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Puis je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai quitté. Mille après mille, je suis triste. Puis mille après mille, je m'ennuie. Puis jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Ben mille après mille, je suis triste. Puis mille après mille, je m'ennuie. Puis jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer.
Bonjour Michel et bienvenue à cette nouvelle chronique des trouvailles du serein pèlerin.
Eh bien, bonjour Denis. Alors, allons-y pour cette nouvelle chronique.
Alors, vous nous parlez de quoi aujourd'hui?
Alors, l'hiver s'en vient bientôt à nos portes et puis ça m'a poussé à vous parler d'une personne assez particulière qui profite de l'hiver pour marcher, puis elle s'est elle-même baptisée la Winter Pilgrim, la pèlerine d'hiver.
Un peu spécial. Oui, alors, qui est donc cette Winter Pilgrim?
En fait, c'est une États-Unienne qui est dans la jeune soixantaine en 2025. Elle, sa vie a complètement basculé sur les chemins de Compostelle en 2007. Elle était dans la jeune quarantaine. Elle avait décidé de prendre une année sabbatique de son métier, qui était ingénieur nucléaire. Donc, elle était en année sabbatique. Elle marche sur les chemins de Compostelle, puis comme un certain nombre de personnes, elle a eu une espèce de révélation, oui, si on peut dire, oui. Qui a complètement changé sa vie. Puis elle a décidé de marcher dans les pas de saints. qui ont changé les choses à la face du monde. Et donc, elle s'est dit, OK, d'abord, je prolonge ma sabbatique. Et là, elle était juste un petit bout sur le chemin de Compostelle. Elle a dit, le premier saint que je vais essayer de honorer, si on peut dire, par ma marche, ça va être Saint-Pierre. Mmh. Fait que là, elle a fait ce qu'on appelle la Via Francigena, qui est un pèlerinage qui part de Canterbury en Angleterre et qui va jusqu'à Rome sur le tombeau de Saint-Pierre. Puis ça, elle a fait ça en décembre, de décembre 2007 à mars 2008. Puis là, elle a tellement été transformée et convaincue que c'était une expérience intéressante que là, elle s'est dit, bien, je ne retourne pas travailler tout de suite. Puis elle a enchaîné, en fait, pèlerinage sur pèlerinage sur pèlerinage chaque année, en partant à chaque hiver, jusqu'à ce qu'elle décide que ça va être sa vie maintenant pour le reste de ses jours. Alors, c'est comme assez spécial. À l'automne 2025, où on se parle maintenant, elle est rendue à son 20e départ. Ça fait 20 ans qu'à chaque hiver, elle part pour aller marcher. Et elle a à peu près 75 000 kilomètres au compteur un peu partout sur la planète.
Ouh là là, vraiment impressionnant.
Oui.
Où exactement a-t-elle marché comme ça?
En fait, elle a marché un peu partout dans le monde, même dans certains endroits qui vont vous étonner, sur lesquels je vais revenir. Mais je vais juste vous en parler de quelques-uns pour vous donner une idée là, de où elle est allée. Donc, 2007, Canterbury à Rome. 2008, elle a fait ce qui s'appelle la Jakobweg, qui est le chemin de Compostelle qui part de l'Allemagne puis qui est balisé jusqu'à Fisterra. En 2009, elle a fait un pèlerinage entre Kiev et Patras en Grèce, 4400 kilomètres. Elle a fait un petit l'année d'après, Denver au Colorado jusqu'à Mexico, 3300. Là, après ça, elle a pris du plus costaud. Santiago, aller à Jérusalem, 6000 kilomètres. L'année suivante, septembre 2012, Buenos Aires, aller jusqu'à Mexico, 13 008 kilomètres. Donc, après ça, elle en a fait à l'intérieur des États-Unis. Ensuite de ça, une autre année de Helsinki jusqu'à Rome. Un particulier sur lequel je vais revenir en 2015, de Denver au Colorado, où elle habite quand elle n'est pas en pèlerinage, jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et on y reviendra. Ensuite de ça, une autre année au Japon, 5800 kilomètres. L'année suivante, en France. L'année suivante, en Norvège. Alors, comme vous voyez, là, vraiment, un peu partout. Là, le plus court qu'elle a fait, c'était en Irlande. En fait, c'était comme une espèce de petite parenthèse, 481 kilomètres. Et le plus long, bien, c'est ce qu'on mentionnait tantôt, aller voir la Vierge de la Guadeloupe à Mexico, à partir de Buenos Aires, 13 000 kilomètres. Alors, comme vous pouvez voir, c'est assez impressionnant. Merci.
Et tout à fait, mais là, nous sommes curieux. Parlez-nous de sa venue à Sainte-Anne-de-Beaupré.
Ben, en fait, elle est partie de Denver au Colorado en novembre 2015 pour arriver à le 27 mars, le jour de Pâques, en fait, 2016. Puis la portion québécoise qu'elle a faite, elle a appelé nos amis Éric Laliberté et Brigitte Arruni, plusieurs reprises à l'émission. Eux, c'est des gens qui ont, entre autres, développé un parcours qui s'appelle la Voie du Saint-Laurent. Puis elle les a appelés pour dire, bon, mais là, moi, je m'en viens. qu'est-ce que pouvez-vous me suggérer des choses à faire, etc. Donc, eux ont pris vraiment ça au sérieux, puis ils ont comme organisé de façon très détaillée, avec des conférences de presse, etc., la portion québécoise de son périple. Ce qui est assez intriguant, c'est qu'elle avait marché trop vite à partir de Denver, et elle serait arrivée 10 jours avant Pâques. Fait que là, elle leur a demandé, je peux-tu faire un petit détour quelque part? Fait que là, elle était supposée marcher le long du Saint-Laurent, mais là, ils ont dit, OK, si tu veux voir d'autres sanctuaires québécois que... Sainte-Anne-de-Beaupré, parce qu'elle passait au grand sanctuaire qui était à l'Oratoire Saint-Joseph, au Cap-de-la-Madeleine, etc. Bien, ils ont dit, là, on va te faire un détour par le lac Saint-Jean. C'est juste un petit détour de rien. Donc,
quelques centaines de kilomètres,
c'est
quoi.
C'est ça. Fait que là, elle est montée à partir de... Trois-Rivières, en fait, jusqu'au lac Bouchette, le lac Bouchette, le lac Saint-Jean. Ensuite de ça, elle a fait le long du Saguenay. Puis elle est redescendue par ce qu'on appelle le petit Saguenay, en fait, le petit parc qui part de la baie, puis qui passe par Fernand Boileau et qui arrive à Saint-Urbain, puis il est revenu vers Québec à partir de Charlevoix. C'était assez, assez particulier. Et donc, Éric et Brigitte, justement, les deux dernières journées où elle a marché, ils ont fait une invitation à tous, les gens qui étaient intéressés, si on voulait aller marcher avec elle. Alors moi, j'ai allé marcher avec elle, en fait, l'avant-dernière journée où elle partait de Beauport, pas loin de Québec. Il y a un sanctuaire qui s'appelle Notre-Dame de Lisieux, où elle avait passé la nuit. Puis on a marché jusqu'à la Basilique de Québec. Et là, à la Basilique de Québec, ils ont fait sonner les cloches, spécialement quand elle est arrivée, puis ils ont fait un accueil quand même assez, assez significatif. Puis le lendemain, elle est partie de là pour se rendre à Sainte-Anne-de-Beaupré.
Vous avez donc eu la chance de marcher avec elle. Waouh! Vous a-t-elle expliqué pourquoi elle faisait tout ça, finalement?
Oui, Denis, mais avant ça, je veux juste vous dire un petit mot de la série de pèlerinages qu'elle est en train de faire. Parce qu'au moment où on se parle, à l'automne 2025, elle est en train de faire la cinquième partie de son tour des communes de France ayant Saint-Martin dans leur nom. Elle a eu l'idée de, en marchant à un moment donné, Saint-Martin, c'est un saint qui est quand même assez fameux, même si on ne le connaît pas tant que ça. Mm-hmm. Et il y a 305 villes ou villages en France qui ont Saint-Martin dans leur nom.
Vraiment?
Fait qu'elle a, elle a décidé de faire ça sur 5 ans. Elle part toujours de Tours, parce que Saint-Martin de Tours est enterré dans la basilique à Tours. Et là, elle fait des boucles d'à peu près 3 000 4 000 kilomètres. En fait, elle en a fait une qui était dans le nord-est, le nord-ouest, le sud, etc. Et puis, elle termine sa dernière là, à l'heure actuelle. Alors, c'est assez intriguant comme genre de pèlerinage. Et là, à chaque fois où elle passe, tout le monde est énervé. Là, puis les journaux et tout et tout. Là. Puis justement, je disais qu'Éric La Liberté était en France l'été dernier. Il a rencontré notre amie Anne encore là, qui se promenait dans ce coin-là. Donc, puis moi, en passant, j'avais dormi, moi, en marchant sur le chemin de Compostelle, j'ai fait la voie de Tours, dans
oui,
le fond,
oui, oui.
À partir de Paris, aller jusqu'à Santiago. Et à Tours, j'ai dormi dans la basilique, parce qu'il y a un refuge pour pèlerins, où pour aller dans le refuge, il faut passer par la basilique, ils nous donnent une clé, on ouvre une porte particulière, puis on va un peu à côté de ça. Donc, c'était intéressant de voir que je foulais un peu le même endroit que où Anne sévit, si on peut dire, depuis 5 ans.
Oui. Mais pourquoi fait-elle tout ça?
Bien, en fait, fondamentalement, c'est une démarche qui est très, très religieuse. Et puis, je vais vous proposer de vous lire un peu un extrait du blog de Bottes et Vélos, nos amis Éric et Brigitte, qui l'avaient questionné là-dessus. Puis, je trouve que ça résume tout à fait le pourquoi de ça. Alors, c'est le blog du 3 février 2016 de Bottes et Vélos. Puis, la première question qu'il y avait posée, c'est « Parlez-nous de votre foi. À quelle dénomination chrétienne appartenez-vous? » Et puis Anne répondait, « Je suis une catholique pratiquante en voie de devenir une pèlerine consacrée. » Ça, c'est une catégorie qui n'existe pas encore dans le droit canon. Il y a des veuves consacrées, il y a toutes sortes de monde, mais pèlerine consacrée, c'est un peu original. Là, puis elle est en train de militer pour ça. Alors, elle dit, « C'est une vie consacrée à la foi en Dieu, la foi en l'humanité, la foi en moi. » Elle dit, « J'ai fondé une association publique de fidèles, donc une espèce de communauté religieuse, selon le droit canon 298, là, c'est comme tout légal, si on peut dire, dans le diocèse de Denver. Puis cette association-là s'appelle la Société des pèlerins servants, Society of the Servant Pilgrims. Et donc, c'est comme une communauté qui a pour mission de marcher de village en village sur les chemins d'époque vers des destinations significatives dans le but de rencontrer nos voisins du monde puis de bâtir la confiance qui, pour elle, est le fondement de la paix. Alors, la deuxième question de Bottes et Vélos, c'est pourquoi faire vos pèlerinages durant l'hiver? Pourquoi vous appelez la Winter Pilgrim?
Ben oui, justement.
Puis est-ce que c'est pas plus difficile, finalement, que durant l'été? Ben, elle dit non. Elle dit, je préfère marcher durant l'hiver. Les arbres sont dépouillés de leurs feuilles. Les champs sont fauchés. On peut voir plus loin que dans les autres saisons. Avec le gel, tout est propre. Pas de boue, pas de poussière. Je peux toujours ajouter des couches de vêtements s'il fait trop froid. Il n'y a pas de serpents, pas de moustiques. Les rivières sont gelées. Ça traverse mieux. Les gens sont généralement à la maison, accueillants et tranquilles. Donc, plus particulièrement ouverts à accommoder une pèlerine qui passe par là. Elle dit, plus il fait froid, plus je marche vite. Puis plus je porte de vêtements, moins mon sac est lourd. Donc, elle dit, je suis donc plus une athlète d'hiver qu'une athlète d'été. Puis l'hiver me motive plus à parler avec des habitants de la place que je suis très définitivement motivé à ne pas dormir dehors. Alors, l'autre question de Boîte et Vélo, comment se déroulent vos journées de pèlerinage? Qu'est-ce qui se passe? Elle répond, durant chaque jour de marche, avec une moyenne de 40 km par jour, quand même, pour une personne dans la soixantaine, là, c'est quand même respectable. Je suis habituellement seul dans la nature, évitant les routes pavées autant que possible. Et lorsque le soleil commence à descendre, je pars à la rencontre des gens dans les communautés, une paroisse, un centre communautaire, une résidence privée, tout ce qui croise ma route pour demander le gîte. Après ça, ils ont demandé, comment pouvez-vous vous permettre de voyager aussi longtemps sans travailler, finalement? Ben, elle dit, finalement, je suis une pèlerine mendiante. Ce qui veut dire que je ne porte avec moi rien qui a de valeur. Pas de cellulaire, pas de caméra, pas d'appareil de GPS, pas de bijoux, pas d'argent. Et je dois donc de se faire entrer en relation avec une communauté d'individus chaque soir pour trouver une place où dormir et par le fait même demander à avoir quelque chose à manger pour le souper puis le déjeuner du lendemain. Fait que c'est pour ça que c'est comme une pèlerine mendiante. C'est assez spécial. Puis elle dit, lorsque je prépare à partir en pèlerinage ou que j'en termine un, j'accepte des dons pour couvrir les frais de transport, mais pendant mon pèlerinage, je n'aime pas avoir d'argent. L'argent change les relations, elle dit. L'argent accable l'esprit, l'argent et toute possession doit être protégée. Elle dit, j'ai rien à défendre, je suis juste une petite femme de 52 ans, pas tellement sans défense, mais je suis pas une menace, finalement. Et puis, la dernière question, c'était, que faites-vous quand vous n'êtes pas sur la route? Bien, elle a dit, en deux pèlerinages qui durent à peu près 6 mois ou plus chaque année, je consacre mon temps à aider d'autres pèlerins, parce qu'elle fait des voyages organisés.
Ah oui, oui.
Durant ces 6 mois où elle n'est pas seule, alors elle amène des gens puis elle les accompagne.
Mm-hmm.
Je consacre mon temps aussi à parler de pèlerinage et à vivre une vie religieuse dévouée. Alors, Denis, vous voyez que c'est quand même une personne assez spéciale. Puis ça résume assez bien ce que je viens de vous lire, là, son comment et pourquoi elle prend la route à chaque année depuis 2007.
Eh bien, Michel, merci de nous avoir présenté cette fascinante marcheuse et au plaisir de vous retrouver bientôt pour une autre de vos trouvailles du serein pèlerin.
Eh bien, ça me fera bien plaisir de nous retrouver, de vous retrouver et de retrouver notre autre histoire.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier de leur participation Zachary Morin-Pelletier et Jérôme Costigan, qui a également assuré la dimension technique de cet épisode. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Vous pouvez également y laisser suggestions et commentaires sur l'émission. Je vous laisse cette semaine avec une pensée de la Bible. Le silence est la musique de l'âme. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine!